Je suis très heureux d'accueillir Kazuyoshi Yoshikawa pour une série de 4 conférences au Collège de France. Il s'ennuyait, alors il fallait l'occuper, et il s'ennuyait parce que depuis une bonne douzaine d'années, il se consacrait entièrement à la traduction, à la recherche du temps perdu en japonais. Et ce sont des petits volumes comme ceci. Celui-ci, c'est le numéro 13. Il y en a 14. Le dernier, la seconde partie du temps retrouvé, apparu au cours de l'automne dernier, 2019, et la traduction est donc complète. Cette publication s'est échelonnée sur 10 ans, de 2010 à 2019, mais elle était déjà entreprise lorsque le premier volume a apparu. Donc, Kazuyoshi a été très occupé depuis 12 ans, depuis le moment où il a pris sa retraite de l'université de Kyoto. Et alors, il me disait tout à l'heure que depuis l'automne, il se sentait un peu mélancolique, puisque soudain, il avait moins à faire, et donc cette invitation tombait bien, puisqu'il a fallu préparer des conférences pour le public du Collège de France. Alors, bon, cette traduction japonaise, évidemment, je serais bien en peine de la comparer aux traductions précédentes, hein, puisqu'il y en avait déjà 2. Ce sont de superbes petits volumes qui sont illustrés, et donc c'est une édition annotée. Et c'est une édition évidemment très savante, puisque le professeur Yoshikawa est un très très grand proustien japonais. Les études proustiennes au Japon, comme les études sur la plupart de la littérature française au Japon, sont de très très haute qualité. Lorsque j'ai commencé à travailler sur l'œuvre de Proust, au début des années 1980, pour la nouvelle édition de la Pléiade, eh bien, il y avait en tout et pour tout 2 ouvrages sérieux sur Proust, sur lesquels on pouvait s'appuyer pour voir comment travailler. C'était la thèse de Kazuyoshi Yoshikawa et la thèse de Jo Yoshida. Ces 2 thèses qui avaient été faites dans les années 1970. La tienne, tu l'as soutenue en janvier 1977. Donc 2 thèses qui ont été faites sous la direction de Michel Raymond, grand professeur à la Sorbonne, grand proustien, que j'ai eu plus tard dans le jury de ma propre thèse. Et c'est lui qui avait fait travailler ces jeunes étudiants en japonais venant de l'université de Tokyo sur les manuscrits de Proust, les cahiers de Proust qui se trouvaient au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Et ce sont donc les premiers travaux, notamment sur cette seconde partie de la recherche du temps perdu, puisque ce qui avait été entamé comme travaux d'études de Genèse, dès lors que les manuscrits étaient accessibles à la Bibliothèque nationale, ce qui avait été entamé, c'était des travaux sur le début et la fin, du côté de chez Swann et le temps retrouvé. Et ces travaux de ces chercheurs japonais se sont concentrés sur la prisonnière. C'était la thèse de Yoshikawa. Et sur ce qui venait après pour les travaux de Yoshida. Si bien quand moi j'ai commencé à travailler sur Proust, je me suis dit sur quoi n'a-t-on pas encore travaillé? Il y avait un trou au milieu, c'était Sodome et Gomorre, qui restait disponible, puisque ni les premiers chercheurs français n'avaient travaillé sur Sodome et Gomorre, ni les chercheurs japonais qui avaient commencé avec La prisonnière et Albertine. Donc nous lui devons beaucoup. Yoshikawa, vu que ce sont des travaux qui ont été fondateurs pour les études proustiennes que ceux qui ont été faits dans les années 70. Malheureusement, Jo Yoshida a disparu de manière prématurée. Il était professeur à l'université de Kyoto, tandis que Kazuyoshi Yoshikawa était professeur à l'université municipale de Tokyo à cette époque-là. Et après la mort de Yoshida, Yoshikawa a rejoint Kyoto et a pris le poste de professeur à l'université de Kyoto. Donc il y a eu une grande tradition japonaise d'études proustiennes qui se perpétue. C'est Yoshikawa qui a dirigé l'index de la correspondance de Proust. Index général de la correspondance de Proust, un volume tout à fait indispensable pour tous les proustiens. Et puis, de la même façon, c'est un proustien japonais qui a fait l'index des manuscrits de Proust, peu après. Donc nous devons beaucoup à tous ces travaux de nos collègues japonais. Pendant longtemps, Yoshikawa était aussi président de la Société japonaise de langue et littérature française. Donc il a occupé des responsabilités importantes pour l'étude de notre langue et de notre littérature au Japon. Cette société tient, je pense que c'est toujours le cas, 2 colloques par an, au printemps et à l'automne. Et c'est une société qui travaille de manière très efficace pour entretenir l'enseignement et la recherche de la langue et de la littérature française au Japon. Bon, j'y suis souvent allé pour parler lors de ces colloques. Donc, vous accueillez pour 4 leçons au Collège de France un très grand savant, un très grand écrivain, puisque rendre Proust en japonais, c'est aussi un défi pour un écrivain. Et je suis très heureux de vous le présenter. Je dois lui remettre, lors de cette première leçon, la médaille du Collège de France. C'est une médaille qui représente le Collège et, de l'autre côté, Guillaume Budet, qui rappelle la création du Collège. Et c'est pour que tu te souviennes de ta venue ici.
Merci. Et je tiens d'abord à remercier professeur Compagnon pour cette très aimable invitation. Je suis très heureux et honoré de parler de Proust dans cet établissement si prestigieux et devant un auditoire si nombreux. Donc le titre général de mes 4 interventions est « Traduire Proust pour le mieux comprendre », mais je n'évoquerai ma propre traduction de Proust qu'aujourd'hui. Dans 3 autres cours, je vais exposer mes réflexions que m'a apporté cette traduction sur 3 points essentiels dans la recherche du temps perdu. La mondanité chez Proust pour le lundi 16, la judaïté et l'homosexualité dans ce roman pour le lundi 23, et enfin son côté sadomasochiste que j'ai récemment découvert pour le lundi 30. Donc pour aujourd'hui, comment traduire à la recherche du temps perdu. J'ai entrepris, comme professeur Compagnon m'a présenté, depuis 2010, une nouvelle traduction complète en japonais dans la recherche du temps perdu pour la collection Poche Iwanami. Cette édition comporte 14 volumes, dont le dernier a paru en novembre 2019. avec un index général procuré par Keiichi Tsumori. Les traductions japonaises de Proust ont déjà presque 100 ans d'histoire. Le point de départ en remonte à l'année 1923, quand la revue Meijō publia un extrait de La Prisonnière sous le titre « Là, le gardait dormir ». Se succédèrent par la suite bien d'autres versions de ce roman, dont se détachent trois traductions intégrales. La première, en date, fruit d'un travail collectif mené par six chercheurs et écrivains dans les années 1950, et celle qui m'a offert l'occasion de découvrir ce grand roman du XXe siècle. C'était en 1967 et j'avais alors 19 ans. C'est une traduction savoureuse que j'aime beaucoup, mais qui est émaillée de contresens déconcertants. Ces défauts accusent une gestation précoce antérieure au développement des études françaises au Japon. Par la suite, Kyuichiro Inoue, mon maître à l'Université de Tokyo, mena à bien de ses cellules Fox dans les années 70-80 une deuxième traduction complète de la recherche. Cette version, qui constitue l'aboutissement d'un projet personnel entrepris dès les années 1930, possède une saveur littéraire, car M. Inoue était aussi un poète dans la veine de Tatsuji Miyoshi. À ce double titre, on lui doit aussi une excellente traduction des poésies de Ronsard dans cette même collection Poche Iwanami. Sa traduction de Proust a pour qualité notable une grande fidélité au texte original, respectant jusqu'à la ponctuation de l'auteur, au prix toutefois d'une certaine aridité. Vient enfin la version de Michihiko Suzuki, qui se démarque de son prédécesseur en prenant soin de permettre une lecture plus facile. La contrepartie de cette fluidité est cependant le morcellement des longues phrases en segments plus courts où la saveur proprement proustienne est perdue. Au regard de ce riche héritage, est-il encore possible d'apporter du nouveau? Il faudra en juger d'après l'objectif primordial que j'ai poursuivi, concilier à l'intention des lecteurs cultivés de mon pays un texte d'un accès aussi aisé que possible avec des nuances les plus fines du texte original. À cette gageure, j'ai ajouté l'impératif de faire mieux que mes prédécesseurs sur trois points. Les annotations pour éclairer les allusions historiques, sociales, artistiques, les illustrations que j'ai tirées de documents de l'époque, notamment des Vax of John Haskin et la collection des grands artistes dont Proust a lui-même fait usage. Et l'expression. J'ai accordé une attention particulière à la recherche de la traduction adéquate, des jeux de mots et des longues phrases typiques de l'écriture proustienne, sachant que j'avais à manier un lexique et une syntaxe très éloignée de la langue dans laquelle Proust écrivait. Le préalable indispensable à un tel projet était, cela va sans dire, cela va de soi, de comprendre sans faute et d'interpréter correctement chaque expression du texte de Proust. Cette nécessité m'a conduit à rectifier plus d'un contresens commis par mes prédécesseurs. en voici un exemple. Dans l'évocation des odeurs de la chambre de la tante Léonie, odeurs naturelles encore, certes, et couleurs du temps, comme celles de la campagne voisine. La locution adjectivale, couleur du temps, désigne en fait la tante bleu ciel, alors que mes prédécesseurs en donnent une traduction littérale. Les différences que présente ma version avec les publications antérieures résultent parfois de la prise en compte du contexte historique et de l'évolution sémantique des mots. Dans Auto de Madame Swann, le marquis de Nolpois, faisant l'éloge du bœuf froid aux carottes de Françoise, dit ceci à la mère du narrateur. « Vous avez un chef de tout premier ordre, madame. Voilà ce qu'on ne peut obtenir au cabaret, je dis, dans les meilleurs. » Kyuichiro Inoue transcrit le mot « cabaret » en katakana, c'est-à-dire transcription phonétique, et Michihiko Suzuki le traduit sous la même forme par « night club ». Oh, le mot avait un sens tout différent à l'époque, comme en atteste le premier volume de La Luce du XXe siècle, publié en 1928. Aujourd'hui, le mot cabaret, en sens plus large, même parfois celui de restaurant élégant à la mode. Cette définition restitue appréciation élogieuse de Nolpois, une logique mise à mal par les traductions antérieures. Les usages de l'époque s'avèrent généralement d'un grand secours pour établir des sens oubliés ou tombés en désuétude. Examinons à cet égard l'accès du chef d'orchestre que le narrateur convoque dans une comparaison à propos de Saint-Loup à Doncière. Quand je parlais, l'approbation des autres semblait encore de trop à Saint-Loup. Il exigeait le silence et, comme un chef d'orchestre, interrompt ses musiciens en frappant avec son archet parce que quelqu'un a fait du bruit. Il réprimanda le perturbateur, dit « Belge, dit-il, il faut vous taire quand on parle. Vous direz ça après, allez, continuez, me dit-il. » Comme les chefs d'orchestre de nos jours sont munis d'une baguette, les traducteurs japonais successifs ont traduit en frappant avec son archet par la formule takto o tataite, qui veut dire en frappant avec sa baguette. J'ai pris le parti, quant à moi, de traduire archet littéralement par le terme qui désigne spécifiquement cet objet, yumi. Et j'ai ajouté une note explicative sur la pratique de l'époque. Chef d'orchestre devient un métier indépendant vers la fin du XIXe siècle, avec l'apparition des grandes symphonies. Auparavant, la fonction était assumée par le claveciniste ou le premier violon. Ce dernier se servait de son archet pour diriger les musiciens, d'où l'appellation « maître de concert ». Plus tard, l'archet sera remplacé par une baguette. Ces quelques exemples illustrent la méthode à laquelle je me suis astreint de débrouiller les difficultés du texte de Proust à l'aide des documents de l'époque, dans la mesure du possible, de déduire mes choix de traduction d'après leur indications. Pour élucider les allusions encyclopédiques qui parsèment la recherche, j'ai eu souvent recours à des dictionnaires contemporains dont j'ai à l'occasion tiré des notices explicatives assorties d'illustrations. Le Larousse du XXe siècle en particulier m'en a fourni un certain nombre. Ainsi, au détour d'un passage où il est question d'un réveil après un sommeil profond, se lit une curieuse comparaison qui évoque une interruption momentanée des fonctions vitales, comme une mort dont on reviendrait. On appelle cela un sommeil de plomb. Il semble qu'on soit devenu soi-même pendant quelques instants, après qu'un tel sommeil a cessé, un simple bonhomme de plomb. On n'est plus personne. Comment alors, cherchant sans penser, sa personnalité comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre? Qu'est-ce qui nous guide quand il y a eu vraiment interruption, il y a eu vraiment mort, comme quand le cœur a cessé de battre et que les tractions rythmées de la langue nous raniment? Oh, cette vision paradoxale renvoie à une méthode de sauvetage des noyés dont j'ai trouvé la description dans le Larousse du XXe siècle, accompagnée d'une illustration. Pour appeler un noyé à la vie, on desserra les mâchoires et saisissant avec un linge la langue entre le pouce et l'index, on exercera des tractions rythmées de 15 à 20 fois par minute. Et voici l'illustration de ma traduction. Quand le héros se rend avec Robert dans la banlieue de Paris pour y rencontrer Rachel, un paysage campagnard se déroule sur leur chemin. C'était un village ancien, avec sa vieille mairie cuite et dorée devant laquelle, en guise de mât de cocagne et d'oliflamme, trois grands poiriers étaient, comme pour une fête civique et locale, galamment pavoisés de satin blanc. Pour ce mât de cocagne, c'est à nouveau du Larousse du XXe siècle que j'ai extrait une image ainsi expliquée. Au mât enduit d'une matière glissante, savon suif, au sommet duquel sont attachés des objets, que des concurrents s'efforcent d'atteindre un grand pan. Et voici une illustration tirée toujours de la Larousse du XXe siècle. On ne sera pas surpris que le lexique hippique, très spécialisé, soit devenu très peu familier aux lecteurs d'aujourd'hui. Il n'est que de lire les expressions suivantes pour prendre la mesure de cet effet d'étrangeté. Un coupé qui passe dans la rue avec ses chevaux fleuris de rose au frontail, ou encore une voiture attelée de deux chevaux qui ont aux œillères un œillet rouge. M'a donc paru opportun d'agrémenter ma traduction de ces phrases d'illustration du frontail et des œillères toujours puisées dans le Larousse du XXe siècle. Voilà décidément un dictionnaire d'époque fort utile pour mettre au jour les référents culturels obsolètes auxquels se rattache un certain nombre de locutions. Sur la falaise de Balbec, le héros s'adonne avec ses amis à des jeux d'enfants comme la tour prend garde et le furet. Nos provisions épuisées, nous jouions à des jeux qui jusque-là me parut ennuyeux, quelquefois aussi enfantin que la tour prend garde ou à qui rila le premier, mais auquel je n'aurais plus renoncé pour un empire. Pour la tour prend garde, ma note explicative s'appuie sur une partition de la chanson et se fonde encore sur la Larousse du XXe siècle, jeu qui consiste à détruire la tour que forment les deux enfants soutenant les mains en chantant la tour « Prends garde de te laisser abattre ». Après plusieurs essais, l'enfant qui joue le duc de Bourbon cherche à pénétrer dans la tour en forçant ceux qui la représentent à séparer le bras. S'il ne réussit pas à notre essai, et celui qui y parvient est proclamé duc à sa place. La tour symbolise le trône de France. Voici la note et l'illustration de ma traduction. En ce qui concerne le furet, les paroles de la chanson m'ont aussi fourni la trame de ma présentation des règles à l'intention du lecteur japonais. Ancien ju, très en faveur à la cour de Marguerite de Navarre et de Louis XIV. Assis en rond, les joueurs tiennent dans les mains une corde sans fin sur laquelle ils font courir, en le crachant, un anneau dit le furet. En chantant, il court le furet. Le joueur placé au milieu du cercle doit deviner dans quelle main il se trouve. Et voici l'illustration de ma traduction. Il est souvent difficile au lecteur contemporain de se représenter d'anciens usages qui étaient pourtant ancrés dans l'univers quotidien il y a plus d'un siècle, à l'époque où se situe l'intrigue du roman. Prenons la correspondance des tramways, évoquée dans un propos de Charlius à Dupin. Pour ne pas perdre sa piste, je saute comme un petit professeur, comme un jeune et beau médecin, dans le même tramway que la petite personne dont nous ne parlons au féminin que pour suivre la règle. Si elle change de tramway, je prends avec peut-être les microbes de la peste, la chose incroyable appelée correspondance. Un numéro, et qui bien qu'on le mette à moi, n'est pas toujours le numéro un. Je change ainsi jusqu'à 3-4 fois de voiture. Pour la clarté de ce passage, la notice explicative suivante m'a paru s'imposer. Les tramways parisiens, à traction animale ou à vapeur, disposaient déjà de 22 lignes en 1873 et ils sont électrifiés un quart de siècle plus tard, en 1889, alors que leur nombre s'est accru. C'est l'époque à laquelle se déroule l'histoire de Sodome et Gomorre. Le guide de Bédécar, Paris et ses environs, de 1904, en détaille ainsi le mode d'emploi pour les usagers. On demande une correspondance, en payant sa place, il faut avoir soin de descendre au bureau où a lieu la correspondance, que le conducteur vous indique sur votre demande. Entrez alors au bureau et demandez encore un numéro. Par sa conduite insolite, le baron de Charlius suscite bien des rumeurs grossies par les anecdotes que rapportent les petites gens eux-mêmes. Ainsi en va-t-il du maître d'hôtel du protagoniste. Certainement, monsieur le baron de Charlius a pris une malade pour rester si longtemps dans une pistière. Voilà ce que c'est que d'être un vieux coureur de femmes. Il en a les pantalons. Ce matin, madame m'a envoyé faire une course en nuit à la pistière de la rue de Bourgogne. J'ai vu entrer monsieur le baron de Charlius. En revenant de nuit, bien une heure après, j'ai vu ses pantalons jaunes dans la même pistière, à la même place, au milieu, où il se met au jour pour qu'on ne le voie pas. La mise en relief des incorrections de langage ou des contre-vérités qui émaillent les propos de divers personnages sert probablement une thèse philosophique générale de la difficulté à connaître la vérité sur autrui. Cette parole du maître d'hôtel en est un bon exemple. Son erreur sur la prononciation du mot Pissotière va de pair avec une méprise plus sérieuse qui le porte à croire que Charlius est un vieux coureur de femmes et qu'il se met au milieu ou dans la Pissotière pour qu'on ne le voie pas. Afin de montrer ses toilettes publiques, j'ai jugé utile, dans ma traduction, de permettre au lecteur de se faire une image de ces pissotières de 6 places, 3 places à chaque côté, qui étaient en usage à l'époque. La note que j'ai insérée est accompagnée d'une illustration tirée d'un ouvrage documentaire des Vespasiennes de Paris et d'une explication puisée à la même source. Ce type de pissotière était, je cite, un modèle favori des homosexuels qui, pour des raisons anti-nature, pour faire chapelle, bligue la place du milieu. Outre les notes que j'ai insérées de ma propre initiative, j'ai aussi été confronté à maintes reprises à la nécessité de corriger celles qui figuraient dans les éditions antérieures. Ainsi, à Doncières, sans doute après le discours militaire qu'il tient au protagoniste, invoque la caution d'une autorité scientifique prestigieuse. Mais rappelle-toi le grand mathématicien Poincaré, il n'est pas sûr que les mathématiques soient rigoureusement exactes. Les éditeurs de l'édition de la Pléiade précisent dans leurs notes sur ce passage que Poincaré n'a jamais prétendu que les mathématiques ne fussent pas rigoureusement exactes. Or, la question doit être liée aux références fréquentes à la monadologie de Leibniz que comporte la recherche. Proust a probablement utilisé l'édition publiée à la fin du XIXe siècle par Émile Boutroux, son maître de philosophie à la Sorbonne, avec en annexe un article de Poincaré, note sur les principes de la mécanique dans Descartes et dans Leibniz. Et ce texte contient cette phrase, connue sans doute de Proust, « La réduction mathématique ne nous donnera jamais que le possible et non le réel. » C'est là que réside la source la plus vraisemblable de l'assertion prêtée à Saint-Loup. Chemin faisant, l'attention à l'exactitude de la lettre du texte qu'implique le travail de traduction m'a parfois conduit à revoir l'établissement du texte même de Proust par ses éditeurs successifs. Voici un exemple d'une collection que ma traduction m'a permis d'apporter aux éditions antérieures. Il s'agit de la césure entre Albertine disparue et le temps retrouvé. Proust n'a laissé aucune indication à ce sujet, son décès en 1922 ayant interrompu avant terme son ultime travail de mise au net. Pour ma part, j'ai décidé de reverser dans le temps de trouver l'intégralité du séjour à Tansonville. On observe en effet dans la recherche la corrélation suivante. Lorsque le héros change de lieu de séjour, l'écrivain fait systématiquement coïncider ce déplacement avec un changement de volume, de partie ou de chapitre. Cette règle est vérifiée par la transition entre « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » Balbec et « Le côté de Guermantes » Paris et par celle de « Sodome et Gomorre II » Balbec, la Raspelière, à la prisonnière, Paris. Dans le cas qui nous occupe, elle semble corroborer et renforcer par le caractère conclusif propre à un dénouement romanesque que plusieurs événements confèrent au séjour à Tansonville. Ainsi, la révélation par Gilberte de la contiguïté inattendue du côté de Mézeglise et du côté de Guermantes. Et pourtant, la totalité des éditions françaises successives d'Albertine disparut, à l'exception de l'ancienne Pléiade, 1954, depuis celle de la NLF, l'édition originale, jusqu'aux plus récentes, procurées par Luc Lesse, font s'achever l'avant-dernier volume de La Recherche au milieu du séjour à Tansonville, comme le montre le volume de la Pléiade réactualisé sous la houlette de Jean-Yves Tadier. On lira invariablement au bas de la dernière page cette parole de Gilberte adressée au protagoniste. Et voyez-vous, ce n'est même pas ces caprices d'enfant que je me reproche le plus. Pourquoi cette coupure incompréhensible? C'est parce que, il me semble, que tous les éditeurs ont cru que le séjour à Tansonville s'ouvrait sur cette phrase d'Albertine disparue. J'allais d'ailleurs passer un peu plus tard quelques jours à Tansonville. Mais cette phrase n'est qu'une annonce d'une prochaine visite du protagoniste. Et significativement, c'est dans le même paragraphe que le récit opère une analepse qui nous fait remonter quelques mois avant le départ pour Tansonville afin d'exposer les motifs de cette visite qui réside dans la révélation de l'homosexualité de Saint-Loup. Le séjour à Tansonville n'est véritablement introduit que par cette phrase qui fait suite un peu plus loin à cette digression étiologique. Je n'aurais d'ailleurs pas à m'arrêter sur ce séjour que je fis à côté de Combray et qui fut peut-être le moment de ma vie où je pensais le moins à Combray. Dans ma traduction, l'identification de ce seuil m'a dicté le découpage du dernier livre et c'est de cette phrase que j'ai fait l'incipit du temps retrouvé. En vertu de ce principe de faire appel à des documents de l'époque, j'ai reproduit une large choix d'illustrations publiées dans The Vax of John Haskin et dans la collection des grands artistes chez Lawrence, deux références majeures auxquelles Proust vouait une particulière prédilection. Ainsi, dans La Prisonnière, le héros est assailli d'un soupçon alors qu'il observe le profil d'Albertine endormie. Il n'y avait que, quand elle était tout à fait sur le côté, un certain aspect de sa figure, si bonne et si belle en face, que je ne pouvais souffrir, crochu comme en certaine caricature de Léonard, semblant révéler la méchanceté, l'âpreté au gant, la fourberie d'une espionne, dont la présence chez moi me fait horreur et qui semblait démasqué par ces profils-là. J'ai pu établir que les caricatures dont il est question ici renvoient à un dessin de Léonard appartenant à la bibliothèque de Windsor que Gabriel Seaille a fait reproduire sous ce titre exact, caricature, dans sa monographie pour la collection des grands artistes chez Lawrence. On se reporta à l'image que j'en ai publiée pour accompagner ma traduction. Voici toujours dans La Prisonnière un autre passage à propos d'Albertine endormie. Sa chevelure, descendue le long de son visage rose, était posée à côté d'elle sur le lit, et parfois une mèche isolée et droite donnait le même effet de perspective que ces arbres lunaires, grêles et pâles, qu'on aperçoit tout droit au fond des tableaux raphaélesques d'Elstir. Sur la dactylographie de ce passage, Proust a porté une collection autographe qui substitue ces tableaux raphaélesques d'Elstir à la mention initiale de tableaux de Raphaël. Des arbres lunaires sont en effet visibles dans plusieurs tableaux de Raphaël, des arbres lunaires, notamment dans la Vierge au Chardonneret, musée des Offices, à droite, la Belle Jardinière, Louvre, à gauche, deux tableaux reproduits également dans le Raphaël d'Eugène Muntz pour la collection des grands artistes en 1910. Proust avait sans doute le marqué dans le fond du premier tableau, à droite, ces arbres lunaires, grêles et pâles, qu'on aperçoit tout droit, redessinés d'ailleurs par Raskin lui-même et reproduit pour sa Library Edition. On pourra retrouver ces trois documents dans ma traduction et vous avez le dessin de Raskin en bas à droite. Dans Hôtel de Madame Swann, le narrateur évoque le jardin d'hiver qui ne se voit plus que dans les héliogravures des livres d'Étrennes de P. J. Stahl, autre cadeau de jour de l'an offert à Mademoiselle Lily, l'héroïne de l'ouvrage, grâce à l'aide de quelques spécialistes de Stahl, pseudonyme de Pierre-Jules Hetzel, grand éditeur des œuvres de Jules Verne, et de la collection de Mademoiselle Lily, j'ai reproduit ce dessin de Fleuric, représentant le jardin d'hiver de Mademoiselle Lily, publié dans le numéro du 1er janvier 1902 du magasin d'éducation et de récréation. Les gens du monde, des Pampa Proust, expriment en matière picturale des goûts tout à fait opposés à ceux du narrateur, dont la passion se porte sur le peintre impressionniste Elstir, personnage inventé par Proust. Pour ce qui les concerne, leur inclination va plutôt à des artistes bien réels, en vogue à l'époque, mais complètement oubliés de nos jours. Le diplomate Norpois, par exemple, se moque du narrateur lorsque celui-ci se fait le héros passionné d'une botte de radis peinte par Elstir. Ça n'a même pas la prétention d'être un tableau, mais une simple esquisse. Si vous appelez chef-d'œuvre cette vive pochade, que direz-vous de la Vierge d'Hébert ou de Damien Bouveret? Ernest Hébert, malgré l'existence du musée national qui porte son nom et qui abrite ses œuvres, installé rue du Cherche-Midi, Paris 6e, est un peintre peu connu aujourd'hui. Proust lui avait été présenté dans le salon de Madeleine le maire. Norpois évoque ici la Vierge de la Délivrance avant d'être sélectionnée pour l'exposition universelle de 1889. Ce tableau était destiné originellement à l'église de la Tronche, en hommage du peintre à sa ville natale, préservée de l'invasion des Prussiens. On ne connaît guère non plus Pascal Damien Beuvray, élève de Jérôme et de Corot, qui peignit avec un réalisme lorrain la photographie des scènes de la vie quotidienne des petites gens ou de cérémonies traditionnelles de la Bretagne, des tableaux religieux et des portraits. Le tableau évoqué par Norpois représente la Vierge au rabot par allusion à Jésus, le fils du charpentier. Il fut exposé au salon de 1885. Je l'ai le produit dans ma traduction d'après la gravure qu'en publia la revue France Illustrée à la date du 12 septembre de cette année-là. Lors de la conversation littéraire qu'il a avec Albertine dans La prisonnière, le protagoniste évoque deux portraits qui forment une sorte de chiasme. Celui de Laclos, honnête homme, qui était pourtant l'auteur des pernicieuses liaisons dangereuses, fait pendant à celui de Madame Genlis, femme duplice et perverse, qui a néanmoins publié plusieurs livres sur l'éducation des enfants. Si je viens avec vous à Versailles, comme nous avons convenu, je vous montrerai le portrait de l'honnête homme par excellence du meilleur des maris, Coderlos de Laclos, qui a écrit le plus effroyablement pervers des livres, et juste en face de celui de Madame Genlis, qui écrivit des contes moraux et ne se contenta pas de tromper la duchesse d'Orléans, mais la supplicia en détournant d'elle ses enfants. J'ai fait à ce sujet une découverte qui n'est pas mentionnée dans les éditions antérieures du roman. Ces portraits se trouvaient tout doux, en effet, au château de Versailles. Le premier est le portrait de Coderlos de Laclos, pastel exécuté pendant le Directoire par Louis-Léopold Boilly, qui fut pendant la Révolution le portraitiste de Marat et de Robespierre, avant de se reconvertir comme peintre de la vie parisienne. Ce portrait, dont le sujet ne frappe pas son regard, à la fois perçant et préoccupé, figure dans de nombreuses éditions des Liaisons dangereuses, dont celle de Melchior de France, publiée en 1904, cinquième édition. Le second portrait porte pour titre La leçon de Alpes. Le tableau conservé à Versailles avait été copié par Jean-Baptiste Mozès en 1842 à la demande de Louis-Philippe pour la décoration du château. D'après un tableau homonyme, peint en 1791 par Jean-Antoine Théodore Girouste, il est conservé actuellement au Dallas Museum des États-Unis. Madame de Genlis, dame d'honneur de Marie-Adélaïde de Bourbon, duchesse de Chartres et future duchesse d'Orléans, s'était vue confier l'éducation du fils aîné du duc de Chartres, le futur Louis-Philippe, de sa fille Adélaïde, au milieu du tableau, et de sa fille adoptive, Pamela, à droite. Un article paru en 1910 dans la revue Historia sous le titre « La comtesse de Genlis », auquel j'ai emprunté cette reproduction de tableau de Mozès, avait pointé cet écart entre la femme de passion et, je cite, « la femme qui professa si doctoralement la morale », avec à l'appui ses lettres d'amour au duc de Chartres. Mais le problème le plus délicat de la traduction dans la recherche du temps perdu réside moins dans cette recherche des références auxquelles renvoient des allusions historiques et artistique, parfois implicite, que dans la difficulté de transférer, sans rien perdre de leur rythme et de leur nuance, les langages si divers et si particuliers des personnages. À quoi s'ajoute la gageure de rendre les plus longues phrases de Proust en japonais. À titre d'exemple, j'évoquerai l'idiolecte snob et les traits de Le Grandin, tel qu'il le définit lui-même dans les termes les plus prétentieux, en usant dans les paroles qu'il adresse à Madame de Villeparisis de tournure ostensiblement faite pour la langue écrite. Quelque chose que j'appellerais de deux termes contradictoires, la rapidité lapidaire et l'instantané immortel. J'ai essayé de donner à la traduction japonaise de ce passage une allure littéraire très concise. Et je lis quand même le texte traduit pour ceux qui comprennent le japonais. « Aimujun suru yōgo ba » 2つ並べまして、咳のごとき迅速さとか、不滅の早取りとか、呼ばせていただきたい点。 Bloch, quant à lui, s'adresse à son invité sans loup avec un parler littéraire qui tient du pastiche homérique. Sans loup, au casque d'airain, le prenait un peu de ce canard aux cuisses lourdes de graisse sur lesquels l'illustre sacrificateur des volailles a répandu de nombreuses libations de vin rouge. Pour le français défectueux que parlent les bonnes et les valets, il m'a fallu trouver des fautes de même nature en japonais. Le duc de Guermantes, lui-même, qui trouve, je cite, à la fois bon enfant et comique de parler le langage du peuple, dit au héros venu dîner chez lui. Permettez-moi de vous débarrasser de vos flusques. Ce dernier terme, d'origine populaire, désigne des vêtements sans valeur ou usagés que le duc emploie au lieu de manteau, appelé en équivalent japonais, ayant la même signification de manteau sans valeur ou à Paris. Mais d'autres cas sont plus épineux. Ainsi, il est malaisé de faire passer en japonais l'erreur systématiquement commise par le directeur du Grand Hôtel de Balbec, qui confond toujours deux mots assez proches par leur prononciation. Lors de la seconde arrivée du héros à Balbec, dans Sodome et Gomorre 2, celui-ci s'entend dire par le directeur venu l'accueillir à la gare. Le directeur était venu en personne m'attendre à Pontacq-l'Œuvre, répétant combien il tenait à sa clientèle titrée, ce qui me fait craindre qu'il m'anoblit jusqu'à ce que j'eusse compris que dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, titré signifiait simplement attitré. Donc, fort heureusement, la langue japonaise offre bel et bien un couple de mots équivalents qui combinent la correspondance sémantique avec des termes français et la parenté phonique entre eux. Oshakuino, titré, et Otokuino, attitré. Mais le directeur accumule les erreurs du même genre. Il m'a pris, avec beaucoup de tristesse, la mort du bâtonnier de Cherbourg. C'était un vieux routinier qui, dit-il, probablement pour roublard, et me laissa entendre que sa fin avait été avancée par une bille de déboire, ce qui signifiait de débauche. L'application du même principe nous donne pour le couple routinier-hoblard la paire japonaise Roshu, Rokai, et pour déboire débauche les homologues Horaku, Horatsu. Le traducteur est souvent plongé dans l'embarras par les jeux de mots dont les Guermantes sont friands. À la fin du côté de Guermantes, le duc refuse de croire que son cousin, le marquis d'Osmond, agonise de peur d'être empêché de se rendre à une redoute. À son valet, qui, étant allé prendre des nouvelles du marquis, l'avertit que l'on s'attend d'un moment à l'autre à ce que monsieur le marquis ne passe. Le duc le trolque avec un soupir de soulagement. « Ah, il est vivant. On s'attend vous-même. » Comment traduire ce jeu de mots? Le nom de l'antéchrist n'offre aucune marge d'invention puisque ce nom propre ne peut qu'être transcrit en katakana, c'est-à-dire Satan, et que son identification ne présente aucune difficulté pour le lecteur cultivé japonais. Le problème est que le verbe « s'attendre » n'a pas d'équivalent phonique en japonais. Ici, le jeu sur les sonorités a primé sur le sens exact et m'a conduit à introduire le mot « Satan » qui exprime le chagrin. J'ai donc, à titre tout à fait exceptionnel, modifié le texte original en faisant dire au valet que le trépas du marquis était appréhendé avec un sentiment de chagrin. Cela donne, dans ma traduction, « Mamonaku koshaku-sama no gorinju kato, minasama satan no goyosu. O, ikiteiru ka ?» と koshaku wa itte, ando no tame iki wo tsuita. « Satan, satan te, satan wa omae da. » Comment traduire les longues phrases de Proust en japonais? La syntaxe de la langue cible, sujet, complément, verbe, et subordonnée principale est en effet diamétralement opposée à celle du français. Sujet, verbe, complément et principal, subordonnée. Mais chez Proust, les subordonnées correspondent souvent au développement d'images antérieures plutôt qu'à une explication complémentaire. Si l'on traduit d'abord la principale et le verbe, et ensuite la subordonnée et le complément, en respectant l'ordre de leur apparition dans le texte original, on peut éviter un artifice de traduction qu'on observe souvent dans les classes de français au Japon. S'il convient en effet d'éviter de reproduire la syntaxe du japonais en plaçant la subordonnée et le complément avant la principale et le verbe, c'est parce qu'il importe avant tout de préserver l'enchaînement des images voulues par Proust, quitte à couper parfois en son milieu une longue phrase du texte original. Mais il faut bien entendu admettre que cette solution de principe souffle certaines exceptions, étant donné qu'il est impossible de produire une traduction japonaise dont l'ordre des mots soit parfaitement identique à celui du français. Parmi tant de cas auxquels j'ai appliqué cette méthode, je pourrais en donner comme illustration la description du clocher de Saint-Hilaire à partir de points de vue différents dans la ville de Combray, longue de 19 lignes, ou encore l'énumération en 22 lignes des mets qui composent le menu de déjeuner. Je m'en tiendrai aujourd'hui au clocher de Saint-Hilaire. Voici le texte de Proust. Qu'on le vit à 5 heures, quand on allait chercher les lettres à la poste, à quelques maisons de soi, à gauche, surélevant brusquement d'une cime isolée la ligne de fête des toits, ou si, au contraire, on voulait entrer demander des nouvelles de Madame Sazerat, ont suivi des yeux cette ligne redevenue basse après la descente de son autre versant, en sachant qu'il faudrait tourner à la deuxième rue après le crochet, soit qu'encore poussant plus loin, si l'on allait à la gare, on le vit obliquement, montrant de profil des arêtes et des surfaces nouvelles, comme un solide, surpris à un moment inconnu de sa révolution. Et je ne lis pas le texte japonais, mais vous voyez que la phrase continue sans interruption, même dans le texte traduit. La phrase continue encore, ou que des bords de la Vivonne, l'abside, musculeusement ramassée et remontée par la perspective, sembla jaillir de l'effort que le clocher faisait pour lancer sa flèche au corps du ciel, etc. Je n'ai pourtant pas été en mesure d'appliquer cette méthode à toutes les longues phrases de Proust dont une traduction trop fidèle risquerait d'altérer la lisibilité. Néanmoins, découper ces phrases à une série de phrases courtes serait un acte sacrilège, attentoire au style propre à l'écrivain, à cette idiosyncrasie de son écriture qu'il faut comprendre en profondeur comme une façon original de voir le monde autrement. Après maintes hésitations et diverses tentatives, j'ai finalement pris le parti de respecter autant que possible l'ordre d'apparition des mots dans chaque phrase longue. Je vous donne pour cela la description des premières goutte annonciatrice de la pluie, que j'ai traduite en respectant l'ordre des mots dans cette phrase de Proust. J'ai mis une même couleur au segment identique en deux langues. Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une longue, ample chute légère, comme de grains de sable qu'on nous laissait tomber d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel, c'était la pluie. Je ne lis pas le texte traduit, mais le meilleur exemple serait la description des sons de la clochette que fait tenter Swann lors de ses visites à Combray. Je lis toujours uniquement le texte de Proust. Le soir, voici devant la maison sur le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le gros profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde aussitôt se demandait une visite, qui cela peut-il être, mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann. En dépit de l'agencement antinomique des syntaxes françaises et japonaises, je suis parvenu, je l'espère, à composer en japonais une longue phrase épousant le texte d'origine et conservant l'ordre d'apparition des mots. Cette acrobatie à la fois intellectuelle et artistique m'a paru s'imposer, d'autant plus que l'ordre des mots dans cette phrase de Proust est essentiellement porteur de sens en ce qu'il traduit le processus perceptif et mental de la reconnaissance du visiteur par le truchement des sons qui se font entendre à la porte de Jardin, qui arrive lorsqu'il s'agit de Swann, on entend d'abord le double tintement qui arrive d'une manière timide aux oreilles de la famille et fait ensuite trembler dans l'esprit des auditeurs l'image de l'instrument ovale et doré. C'est ce mécanisme inductif qui permet aux membres de la famille de reconnaître la clochette pour les étrangers et d'imputer la manifestation à M. Swann. Il en va de même du bruit ferrugineux, intarissable et glacé, qu'on entend d'abord et qui permet d'identifier une personne de la maison. La fidélité de ma traduction au texte de Proust commandait donc le respect scrupuleux de cet ordre des mots si essentiel dans cet exemple de phrase si typiquement proustien. Ma conclusion est très brève. Telles sont en résumé les règles que je me suis efforcé de suivre dans ma traduction de Proust. Un siècle après l'apparition dans la recherche du temps perdu, cette entreprise exigeante de retour au texte original et aux documents de l'époque a-t-elle encore un sens pour les lecteurs japonais d'aujourd'hui, plutôt attirés par une littérature de divertissement facile à lire? A-t-elle encore un sens en cette ère d'Internet, marqué par une mondialisation accélérée et par une tendance paradoxale à l'enfermement dans sa propre culture, à l'indifférence aux cultures étrangères? Tel que je l'ai conçu, aussi scrupuleusement fidèle à l'original que possible, ma traduction de Proust entend participer, c'est du moins mon espoir, à l'effort plus que jamais essentiel d'une meilleure compréhension à la fois littéraire et interculturelle. Merci.